voyage, voyage. Radio.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Mais je veux pas être le premier. On n'avait plus rien à se dire, et si, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue soufflot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses. Comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. Comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mort à une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous. Et toi Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et bah c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on étale, c'est d'être au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. 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 C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on. Des grands hommes, des grands hommes, des grands hommes. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans.
Forum,
Forum,
Collector Radio.
To think things over. read between the lines, in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder.
Must be some kind of new movie. you like the way I hold a microphone. Sometimes I'm good, but when I'm bad, I'm even better.
Falling in love is so hard on the knees. C'était Aerosmith sur RTL 2 en live et ça fait partie de leur album A Little South of Sanity, sorti en 1998. C'est d'ailleurs avec ce titre que j'ai personnellement découvert le groupe de Steven Tyler. Je vous invite à aller regarder justement ce clip où, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des bombes sexuelles et des mecs en cage. Dans quelques instants, ce sera The Guess Who dans Pop Rock Station avec leur classique American Woman. Et puis on aura aussi les Français de R.
Le double expresso RTL 2.
Depuis le début de la saison, on vous a déjà fait gagner plus de 200 000 euros cash dans le double expresso.
RTL 2 vous offre aussi les meilleurs concerts pop rock partout dans le monde. Linkin Park, Imagine Dragons, The Offspring, Coldplay.
Et on ne compte pas s'arrêter là. Les 50 000 euros sont dans les coffres de la banque RTL 2.
Alors pour tenter de participer, c'est très simple. Vous envoyez le mot banque au 74 900. Un SMS pour emporter jusqu'à 50 000 euros. Ça vaut le coup.
RTL 2 présente le festival Rétro Citron.
Du 27 au 29 juin, retrouvez Iggy Pop,
Manu Chao,
les Sex Pistols,
The Stranglers, Rival Sons et plein d'autres artistes au château de Tilleulois entre Amiens et Compiègne.
Infos et réservations, point vente habituel et RTL2.fr.
Le festival Rétro Citron avec RTL 2.
Le son pop rock à tout moment avec l'appli RTL 2. Du dimanche au jeudi, 22h minuit.
RTL 2 Pop Rock Station.
Marjorie Hache et Francis Écut.
Voyage musical. We'll be right back.
American woman.
Anglais de Blur avec Song 2 sur RTL2 qui marque un tournant musical pour le groupe Britpop. On sent en particulier l'influence que le rock alternatif US avait sur leur guitariste Graham Coxon. Et en parlant de rock US, cette année voit aussi le retour de Ty Segall qui sortira son 16e album Possession le 30 mai et qui promet d'être rempli de paroles lyriques et d'une grande orchestration. Il a coécrit ce nouveau disque avec son collaborateur de longue date, le réalisateur Matt Yoka. Voici Possession, le single, nouveauté Fresh 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 dans Pop Rock Station sur RTL2.
World position, world position, world position, world position.
my cup, put some liquor in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the scratch.
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop.
Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Drink, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money.
Break it down.
Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh.
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you sexed and flown it. If you freaked and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you sexed and flown it.
Well, it's Saturday night and we in the spot.
Don't believe it, just watch. Just why?
Sweet FM, Sweet FM, la radio du Loir-et-Cher.
Anxiety, keep it quiet. Oh, somebody's watching.
FM, la radio du Vendômois.
Ça m'est arrivé de mentir aux gens que j'aime, pour pas dire quand ça va pas. Ça m'est arrivé de sourire pour fuir les peines que je traîne derrière moi. Et puis c'est pas facile à dire quand on a peur, quand on n'a pas confiance en soi. Après tout, j'ai quoi à offrir, moi, je sais pas. Mais j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas, toi mon amour. J'ai envie de te dire merci, parce que tu mérites tellement plus que ça. Parce que tu m'as sauvé la vie, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de la vivre avec toi. Et qu'importe les torrents, les pluies, toutes les épreuves du monde ensemble, on les traversera et on se créera des souvenirs que les autres ne comprendront pas, ne comprendront pas. Mais j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas, toi mon amour. Et si la vie nous sépare, alors ça ne vaut plus le coup. J'avoue, t'es mon présent et puis mon futur. Cet amour si fort que je traverse les murs. T'es ma plus grande chance, mon toit, mon armure. T'es ma dernière danse, ce tableau sans rature. T'es mon essentiel, sûrement l'âme la plus belle. T'es ma lumière qui brille, qui m'éclaire. Et si un jour tu pars, si un jour je te perds, n'oublie jamais combien je t'aime. Alors j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas, toi mon amour. Et si la vie nous sépare, alors ça ne vaut plus le coup. J'avoue, mais j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas, toi mon amour.
À moi de vous avouer quelque chose. On va devoir se dire adieu. Et je dis ça comme si on n'allait pas se voir pendant 6 mois. Absolument pas. C'est juste que demain, bah, c'est férié. Et puis comme d'hab, le vendredi et le samedi, c'est Sweet FM Fiesta Club. Donc nous, on va se revoir. Enfin, je vais vous accompagner. Pas avant lundi de la semaine prochaine. Donc on se retrouvera comme d'habitude, par contre, lundi dès 21h. Je vous souhaite de passer un bon week-end prolongé si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, et bah bon courage les amis. Vous ne serez pas seuls ni demain ni vendredi. Par exemple, demain, il y aura le Sweet Café avec Sévan. Il y aura aussi Charlotte, Sylvain, Eric et Clémence. Enfin bref, on va continuer de vous accompagner. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take a ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space but now they're laughing at their face saying wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now.
Que les pendus ne meurent pas faute de respiration, mais par la compression asphyxiante des veines jugulaires. Une remarque qui pourrait bien être la clé de l'affaire. Selon l'historien Benoît Garneau, dans son livre « Voltaire et l'affaire Callas », publié chez Hattie en 2013.
Cette remarque permet en effet de supposer que, plutôt que d'attacher la corde au billot posé sur le haut des montants de la porte, Marc-Antoine a pu tout simplement la fixer au bouton de cette porte. Même si ses pieds touchaient terre, il pouvait quand même aboutir ainsi à la compression des veines jugulaires nécessaires au passage de vie à trépas. Mais cette possibilité étant alors difficile à prouver scientifiquement, elle l'a été depuis à la suite d'Antoine Louis à maintes reprises, les Callas et Laves ont préféré présenter la thèse de la pendaison au montant de la porte.
Cette thèse, a priori soufflée aux accusés par leurs avocats, est physiquement impossible, nous l'avons vu, va perdre Jean Callas. Callas, dont le nom serait sans doute tombé dans l'oubli sans l'engagement de Voltaire. Car le philosophe a fait de cette affaire le symbole de son combat acharné contre l'injustice. Une lutte résumée par cette phrase, tirée de son œuvre Zadig : il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Principe absolu d'une justice de l'état de droit, et de nos jours, pas toujours appliqué.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Voltaire et l'affaire Callas. Notre invitée, Cécile Berly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne spécialiste du XVIIIe siècle et directrice artistique du Salon du Livre d'Histoire de Grasse. Alors évidemment, quand on aime l'histoire, on aime tous les siècles, mais il faut avouer quand même que le XVIIIe était un morceau de choix, hein, siècle des Lumières, puis Révolution française et tant d'autres événements. Et précisément, quand on travaille comme vous sur le XVIIIe, quelle place occupe l'affaire Callas ?
Ah, une place absolument charnière. Il y a un avant et un après, ça c'est indiscutable. Et je pense qu'en premier lieu, c'est indiscutable parce que justement, le point de bascule, c'est Voltaire. C'est-à-dire qu'il va créer quelque part le 18e que l'on aime tant, c'est-à-dire le 18e du combat, le 18e de la justice, c'est-à-dire de tous ces idéaux dont nous sommes encore aujourd'hui les enfants.
Ouais. Et ça montre à quel point parfois les faits divers peuvent dire énormément de choses de l'époque dans laquelle ils s'inscrivent, parfois pas. Là, en tout cas, c'est vraiment un fait divers qui va au-delà du fait divers, c'est un fait de société, c'est un fait politique. Alors précisément, lorsque commence cette affaire-là, à quoi ressemble la France sur le plan politique ?
Alors sur le plan politique, on peut dire que globalement, la France, elle est en train de perdre un peu son apogée. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue international, on est en train de sortir très très péniblement de la guerre de 7 ans. On va laisser, si j'ose dire, de grandes plumes. C'est-à-dire, c'est la baisse de notre prestige à l'international. Mmh. Par ailleurs, à l'intérieur, il y a de grandes querelles entre le pouvoir royal absolu et les parlements. C'est-à-dire que ce sont des guerres ouvertes. Et puis, il y a encore ces mémoires des guerres dites de religion, effectivement, entre les catholiques et les protestants. Donc, on peut dire qu'en ce début des années 1760, la France, qu'on le veuille ou non, a beaucoup perdu de sa superbe.
Alors, sur le plan religieux, vous le disiez, et on l'a vu au cours de cette histoire, la guerre entre les protestants et les catholiques, qui s'est muée en tension, donc l'affaire Calas en est la preuve, mais à quoi ressemble justement le quotidien des protestants à l'époque? Depuis la brutalité de Louis XIV et sa révocation de l'édit de Nantes, ils vivent cachés, tolérés, menacés?
Alors, ils vivent globalement tolérés, mais c'est une tolérance qui est quand même un petit peu hypocrite. C'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup de protestants, on va les laisser tranquilles à condition qu'ils singent le catholique, pour faire simple. Voilà. Et surtout, on s'aperçoit, et on le voit, l'illustration est malheureusement parfaite avec l'affaire Calas, dès qu'il y a qu'on peut mettre le feu aux poudres entre les catholiques et les protestants, si j'ose dire, personne s'en prive. Et c'est ce qui va effectivement se passer avec l'affaire Calas. Faut pas oublier quand même que jusqu'à la veille de la Révolution, c'est-à-dire 1787, les protestants n'ont pas le droit d'exercer ouvertement leur culte. Et même après, ça sera qu'un principe de tolérance véritablement. Donc évidemment, et d'ailleurs, parmi les choses, les idées qu'il faut absolument casser à l'égard du XVIIIe siècle, on voit toujours cette France idéale, cette, paraît-il, douceur de vivre, tolérance, etc. Non, c'est un siècle profondément violent et qui est extrêmement agité du point de vue strictement religieux. La France que l'on va bientôt appeler d'Ancien Régime est un siècle profondément religieux. Voilà.
Est-ce que ce siècle a conscience, notamment en France, mais ailleurs, en tout cas au niveau de l'Europe, que c'est un monde qui bascule, qui va basculer avec la Révolution française? Même William Thackeray, l'écrivain britannique, le souligne dans son roman Barry Lyndon, dont Kubrick fera un film. Hein, quand on voit ces grandes batailles, Kubrick veut montrer aussi qu'on est dans un siècle de bascule absolue.
Alors, on est dans un siècle de bascule, il y a des ruptures, il y aura évidemment une continuité, enfin une rupture majeure, pardon, avec la Révolution.
Bien sûr.
Mais un Voltaire va justement sentir ces changements et peut-être même les faire naître. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que lui, il comprend qu'il y a des choses qui désormais, il faut expliquer au plus grand nombre qu'il y a des choses qui ne sont plus tolérables. Et par exemple, l'intolérance religieuse, c'est son grand combat qui explique pourquoi on l'aime tant, qu'on l'admire tant encore aujourd'hui. Parce que justement, pour lui, ce qui n'est plus tolérable, eh bien, c'est cette barbarie, cette violence gratuite au nom du fanatisme religieux.
Qui nous renvoie à Galilée, hein.
Exactement.
Et pourtant, il tourne.
Bien sûr.
Quelle phrase.
France Inter. Sensible.
Et Cécile Berly, je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste du XVIIIe siècle et directrice artistique du Salon du Livre d'Histoire de Grasse, dont nous dirons un mot d'ailleurs à la fin de cette interview. Mais revenons à notre affaire Voltaire et Calas. Ce qui frappe, évidemment, c'est le fonctionnement de la justice. On a du mal à imaginer aujourd'hui un procès aussi expéditif, avec une telle violence, et puis en plus, il n'y a plus la peine de mort. Mais enfin, est-ce que l'affaire Calas est représentative du fonctionnement judiciaire au XVIIIe siècle?
Alors là, faut vraiment faire esprit de nuance. Parce qu'évidemment, il y a eu des moments au cours du XVIIIe siècle où la justice, elle est très clairement spectaculaire. Pensons à l'affaire d'Amiens, pensons à l'affaire Calas, pensons à l'affaire du Chevalier de la Barre. Mais si on lit, par exemple, des historiens spécialistes de l'histoire du droit, on s'aperçoit que la question de la torture, à laquelle a été soumis un Calas, c'est à peu près 1% des affaires judiciaires sur tout le XVIIIe siècle. Donc, voilà, c'est important quand même de nuancer, parce que même Voltaire a été un petit peu excessif quand même.
Oh, il pouvait l'être. Hein.
Il l'était carrément, il l'était vaillamment, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que là, c'est pareil, il ne faut pas alimenter un imaginaire où forcément le 18e est soit tout doux, soit d'une violence à chaque coin de rue. Voilà. Donc effectivement, cette justice, elle peut être, par contre, hein, c'est ça, on le voit très bien, on le mesure très bien avec l'affaire Calas, très spectaculaire, parce que c'est aussi une façon de remettre de l'ordre dans du désordre. voilà, de frapper les esprits. Et puis il y a quand même aussi cette idée, justement, de, en frappant les esprits, eh bien on remet de l'ordre, on réinstalle l'autorité, qu'elle soit strictement politique et ou religieuse, malheureusement.
Et en même temps, on sait à quel point la justice a du mal à se déjuger, ce qu'on peut comprendre aussi. Là, elle réhabilite, hein, elle dit oui, on s'est trompé, mal quand même.
Et là, Louis XV, dont on dit beaucoup de bêtises aussi, à propos duquel on dit... Là, c'est pareil, il faut être nuancé, parce que mine de rien, on a réussi à le convaincre. Il y a des gens qui ont réussi à convaincre quelqu'un qui avait du mal à changer d'idée, qui avait du mal à avoir même une opinion un tant soit peu tranchée, et effectivement, eh bien, le Conseil du Roi va casser cette justice, et ça, c'est pareil, c'est totalement inédit dans l'histoire, alors évidemment du XVIIIe siècle, mais aussi dans l'histoire de la monarchie, et ça rejoint cette idée qu'on est effectivement dans une sorte de point de bascule à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a pu créer, qu'on a pu mettre en place, et ça va évidemment donner lieu à des changements sur un temps beaucoup plus long.
Oui, on a raconté récemment dans Affaires Sensibles le supplice de François Damiens, c'est bien François, hein, c'est ça?
Exactement.
Et il était dit que Louis XV avait refusé d'assister à cette exécution, ça, c'était pour lui, c'était pas supportable humainement.
Bon. Exactement.
Alors, donc on a dit qu'il y a une autre France qui émerge, vous l'avez confirmé, celle des philosophes, des penseurs, qu'on appelle les Lumières, assez justement d'ailleurs. Alors, est-ce que leurs idées commencent déjà à infuser dans la société ou est-ce que ça reste très élitiste dans les milieux intellectuels?
Alors, au moment de l'affaire Calas, justement, et je pense que c'est aussi grâce à l'affaire Calas, on commence à assister à une diffusion. C'est-à-dire qu'évidemment, ça reste très élitiste, mais là où Voltaire est au-delà du génie absolu, c'est que par l'affaire Calas, il va réussir à convaincre l'opinion publique, dont on peut déjà employer l'expression « opinion publique », qu'elle soit française ou européenne, par cette stratégie de communication, parce que c'est un communicant extraordinaire, Voltaire, ce qu'il appelle les livres de 30 sous, ces petits écrits qu'on peut diffuser facilement, qui ne coûtent rien, qu'on peut acheter. Et dans ces petits écrits, eh bien, il y a cette idée, évidemment, de diffuser ce qu'on appelle les idées nouvelles et d'essayer de convaincre. Et il va réussir largement. Voltaire, parmi les choses les plus belles qu'il invente, il y a très clairement ces codes qui façonnent une opinion publique, là, pour un sens, évidemment, dans le sens du progrès, vers un sens, comme on dit au XVIIIe, beaucoup plus libéral.
Alors, quels sont ces rapports avec le roi, avec le gouvernement, avec les autorités?
Globalement, ambivalente et épouvantable. C'est-à-dire que Voltaire aurait adoré être le philosophe courtisan. D'ailleurs, il va lutter pour devenir le philosophe courtisan durant des décennies. À chaque fois, ça se finit très mal, que ce soit avec un Louis XV, que ce soit avec le roi Frédéric II de Prusse. Ça se finit toujours très mal. Probablement parce que, à la fois, il est l'homme du XVIIIe siècle, donc il a les codes de son temps, et en même temps, il est beaucoup trop en avance sur son temps pour se contenter d'être un philosophe courtisan. Donc c'est aussi pour ça qu'il va connaître des décennies d'exil, souvent assez difficiles à vivre d'ailleurs. Et en fait, Voltaire, son coup de force, c'est quand il a Ferney au moment de l'affaire Calas, il est seigneur en son domaine, et ça il y tient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui le chef, c'est lui le seigneur, c'est lui qui a le pouvoir, y compris celui de faire ou défaire l'opinion publique.
Alors, on ne peut pas dire que c'était un intellectuel assis, puisqu'il s'est... Il ne s'est pas contenté, peut-être comme d'autres, d'écrire, d'infuser des idées. Il est allé, il a mis les mains dans le cambouis, quoi. Il y est allé. Et on a l'impression que c'est un combat aussi personnel. Est-ce qu'il était un philosophe différent des autres dès lors qu'il s'est engagé comme ça, quasi physiquement?
Alors déjà, il est différent d'un point de vue chronologique, parce que par rapport au philosophe des Lumières, il y a quand même une génération, il est né une génération avant la plupart des philosophes des Lumières, comme évidemment Rousseau, pour comment ne pas le citer.
Bien sûr.
C'est un homme qui travaille en moyenne entre 14h et 17h par jour. Ça veut dire qu'il est effectivement, comme vous venez de le dire, très souvent assis. Là où il est perpétuellement en mouvement et il est épuisant à suivre, c'est justement par sa force de travail. Il écrit, il écrit, il écrit, et il diffuse. Et là où il nous rend fous, que ce soit ses lecteurs ou les historiens, c'est qu'il écrit en signant, et il écrit, c'est un faussaire aussi de l'histoire, Voltaire.
C'est-à-dire,
il développe un grand nombre de textes, et il les diffuse aux quatre coins de l'Europe sans les signer. et en ayant une posture de non, c'est pas moi qui les ai écrits. C'est d'une efficacité absolument redoutable. C'est-à-dire qu'en fait, il a la version officielle avec signé Voltaire et la version officieuse où il inonde la France et l'Europe de toutes ces lettres et surtout là de tous ces petits textes pour essayer de convaincre.
Alors là, on parle de la deuxième, essentiellement de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Comment dépeindre la première partie entre 1700 et autour de 1750? Est-ce qu'il y a vraiment deux XVIIIe siècle?
S'il y en avait que deux. S'il y en avait que deux.
C'est pour ça qu'il est passionnant, ce siècle.
C'est pour ça qu'il est passionnant, ce siècle. Et alors, surtout, moi, je dirais que de tous ces 18e siècles, s'il y a un homme, c'est évidemment Voltaire. Mmh. Voltaire est le 18e. Dans toutes ses contradictions, dans toutes ses profondeurs, dans toute sa superficialité aussi, Voltaire, il est omnipotent, il est partout.
Je reviens juste sur ce qu'on disait quasiment au début de l'interview, quand vous me parliez de Louis XV. Mmh. On a effectivement dans l'imaginaire populaire une image de Louis XV qui est plutôt positive. Mais allez un peu plus loin là-dessus, ça m'intéresse.
Ben en fait, alors, je ne sais pas si elle est seulement positive. Disons qu'on le voit un peu comme le roi assez libertin, assez paresseux. Pendant très longtemps, il a été Louis le bien-aimé.
Oui, le bien-aimé.
Alors ça remonte déjà un petit peu avant l'époque de l'affaire Calas, il commence à être Louis le mal-aimé. Parce que lui aussi, quelque part, si j'ose dire, Louis XV, il est dans un siècle charnière et lui, il est le roi charnière entre deux temps de bascule. Cette monarchie dite absolue et puis une monarchie qui commence à vaciller, à être, qu'on le veuille ou non, fragilisée. Il n'a pas su mesurer suffisamment les effets des idées nouvelles.
Oui.
Ça, c'est évident. Là-dessus, il n'a pas été suffisamment vigilant. C'est un roi qui est beaucoup plus sérieux qu'on ne le pense et qui déteste les philosophes des Lumières. Alors, il détestait Voltaire. C'était l'antéchrist pour lui, Voltaire. Et ça, là-dessus, il a mal joué parce que il était plutôt très bon réformateur.
Bien. Un mot, s'il vous plaît, sur le salon du livre de Gras.
Easy as it goes, wait for me.